Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un mystère. Un mystère dramatique. La disparition de l'avion de la Malaysia Airlines, sorti brutalement des écrans radars et des contacts radio alors qu'il volait au-dessus du golfe de Thaïlande. Une histoire dont les plaies sont loin d'être cicatrisées, d'abord parce que le drame est récent, mars dernier, et puis surtout parce que l'avion a disparu. Aucune trace de lui, aucune piste, rien. Et donc cette question lancinante, comment un objet aussi gros de plus de 60 mètres de long peut-il disparaître de cette façon sans laisser de trace ? Telle est l'histoire du vol MH370 de la compagnie nationale malaisienne qui a décollé dans la nuit du 8 au 9 mars de Kuala Lumpur pour un vol qui devait durer 6 heures et 20 minutes. Or, ce Boeing 777, l'un des avions, sinon l'avion le plus sûr qui soit, ne posera jamais ses roues sur l'aéroport de Pékin, sa destination. C'est une demi-heure après son décollage, alors qu'il quitte l'espace aérien malaisien pour s'enfoncer dans la nuit noire au-dessus du golfe de Thaïlande, que l'avion va se volatiliser, ne plus jamais donner signe de vie. Avec lui, ce sont 227 passagers et 12 membres d'équipage qui disparaissent. Parmi eux, 4 Français, dont la femme et les enfants de Gila Vatrollo, que notre reporter Anaël Verzo a rencontré et que vous pourrez entendre en seconde partie d'émission. Cette affaire du vol MH370 est unique en son genre, car pour la première fois dans une catastrophe aérienne, il n'y a ni avion, ni boîte noire, ni survivant pour apporter une quelconque explication. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle, face à la loi du silence de plusieurs pays et à l'opacité de l'enquête menée par les autorités malaisiennes, le malaise est si grand. Incidents techniques, défaillances humaines dans le cockpit, détournements, missiles, dans ce désert d'éléments matériels, et à cause de ce désert, on ne peut rien écarter, mais on ne peut rien savoir, d'où le malaise. Alors, que s'est-il passé en cette nuit du 8 au 9 mars au-dessus de l'océan, à plus de 10 000 mètres d'altitude ? Un écrivain français, écrivain à succès, passionné d'aviation et dont l'essentiel de l'œuvre romanesque est adossé à la réalité historique, Hoover, Kennedy, Le Kursk, la Première Guerre, est parti enquêter il y a 10 jours aux Maldives et il nous dira pourquoi aux Maldives. Cet écrivain, c'est Marc Duguin, qui publie un dossier de 8 pages dans Paris Match. Il est, sur cette affaire, notre invité aujourd'hui en partenariat avec l'hebdomadaire. Nous le retrouverons après le récit. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Benjamin de la Gâtinée, Alain Gadan.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Avant l'épisode de la disparition du MH370, la compagnie aérienne Malaysia Airlines, fierté du pays, a une réputation qui la hisse parmi les meilleures au monde en termes de satisfaction de ses passagers. On la retrouve ainsi estampillée 5 étoiles à partir de 2009 au prestigieux classement Skytrax. Elle est également élue à plusieurs reprises compagnie aérienne asiatique de l'année. Niveau sécurité, la compagnie répond aux standards exigeants des compagnies les plus en pointe. Elle remplit parfaitement ses obligations vis-à-vis de l'organisation de l'aviation civile internationale. Elle fait même figure de bon élève, car au cours de la dernière décennie, elle n'a connu que 2 incidents techniques en vol, et il faut remonter 19 ans plus tôt pour trouver un accident mortel. Et puis sa flotte est récente, ses avions plutôt neufs. Bref, la Malaysia Airlines est une compagnie très fréquentable. Long courrier vers l'Europe, le Moyen-Orient ou les États-Unis, Malaysia Airlines arrose aussi toute l'Asie avec des vols moyens courriers. Une liaison par jour, par exemple, entre Kuala Lumpur et Pékin, essentiellement sur Boeing 777-200, un appareil lancé en 1995 et considéré par beaucoup de compagnies aériennes à travers le monde comme le standard de l'appareil long courrier, tant par son rayon d'action, qui peut atteindre 14 000 km, que par sa fiabilité mécanique. Cet avion type long cigare ressemble un peu à l'A340 dont il est le concurrent direct. D'ailleurs, pour Michel Polacco, consultant aéronautique pour Radio France, s'il y a un problème, il n'est pas à chercher du côté de la compagnie ni de l'avion.
C'est une bonne compagnie avec des équipages sérieux, bien formés, qui exploitent une flotte d'avions modernes. On est dans une situation où ni l'avion ni la compagnie ne peuvent être a priori des explications.
Ça paraît clair, effectivement, ce n'est probablement pas de ce côté-là que se niche la vérité. En cette nuit du samedi 8 mars 2014, il est minuit 40, heure de Kuala Lumpur. Sur la piste de décollage, le Boeing 777 du vol Malaysia Airlines 370 attend. Destination, Pékin. Temps de parcours prévu, 6h20. À bord, 227 passagers, en grande majorité des touristes chinois, mais aussi quelques Américains, des Européens et autres nationalités. On compte 12 membres d'équipage. Aux commandes de l'appareil, Zahari Binamat Shah, un pilote expérimenté de 54 ans. Pour ce vol, il est assisté de Farik Binab Hamid, son copilote, plus jeune, il a seulement 27 ans. Après l'autorisation de la tour de contrôle, le commandant pousse la manette de gaz, l'appareil accélère, rotation comme disent les pilotes, il décolle. Alors que l'appareil grimpe pour atteindre son altitude de croisière à 35 000 pieds, soit un peu plus de 10 km d'altitude, tout va bien dans le cockpit, la routine. Pendant la demi-heure qui suit son décollage, l'avion respecte à la lettre son plan de vol. Il fait route plein nord en direction des côtes du Vietnam qu'il est censé longer pour rejoindre Pékin. À 1h19, le pilote envoie son dernier message au contrôleur malaisien. Il leur souhaite bonne nuit. Dans les instants qui suivent, l'appareil sort du contrôle radar. Là encore, rien de plus normal. Quelques minutes plus tard, à 1h22, le transpondeur qui sert à localiser et identifier l'avion est subitement débranché, tout comme l'autre système, l'ADS-B, qui, lui, précise son positionnement par satellite. Selon les données des contrôleurs aériens, l'avion aurait subitement viré de bord pour faire chemin inverse et retourner sur la Malaisie. En inclinant le manche, le pilote aurait emmené l'avion à 45 000 pieds, ce qui a fait dire par la suite qu'il y avait eu un incident technique à bord ou une tentative de détournement. Toujours est-il qu'à ce moment-là, personne ne sait ce qui se passe dans le cockpit, mais on a compris que quelque chose ne tourne pas rond. Peu après, le troisième système, l'ACARS, qui envoie les données techniques du vol à Boeing, n'émet plus. Désormais, sans transpondeur, ni système ADS-B, et sans ACARS, l'appareil n'est plus détectable. Au Vietnam, on tente de contacter l'appareil. Aucune réponse. Les autorités vietnamiennes demandent alors à l'avion commercial présumé le plus proche d'entrer en contact avec le vol MH370. Son pilote tente d'échanger avec la radio. Il n'entendra pour seule réponse que des marmonnements sur fond de parasites. À 1h38, le contrôle aérien vietnamien appelle alors Kuala Lumpur pour l'informer de la perte de contact. Et là, le centre des opérations de Malaysia Airlines répond que des échanges de données sont toujours possibles avec l'appareil et que celui-ci serait au-dessus de l'espace aérien cambodgien, 300 km à l'est de sa trajectoire initiale. Dès lors, les éléments troublants, pour ne pas dire contradictoires, vont s'enchaîner. À 2h22, un radar militaire malais localise l'appareil dans la mer d'Adaman, à 370 km au nord-ouest de la Malaisie. Il ferait route plein ouest. Autre élément étonnant, alors que tous les contacts, radio, transpondeur, ACARS et ADS-B sont coupés avec l'avion, les log on request, ces signaux qu'envoie le motoriste Rolls-Royce à l'appareil, continuent d'être reçus pendant plusieurs heures. L'appareil ne répond pas mais accuse réception des messages envoyés par le motoriste qui assure cette procédure normale avec tous les appareils équipés de ses moteurs dans le monde entier. Au centre de crise de Malaysia Airlines, les informations deviennent de plus en plus contradictoires, jusqu'à admettre que la localisation supposée de l'avion plein nord au-dessus du Cambodge répond à des projections, des calculs, oui, mais pas à la réalité. 5h30, le centre de coordination du secours aérien à Kuala Lumpur est activé. Une heure plus tard, alors qu'il aurait dû se poser à Pékin, l'avion est déclaré disparu, l'annonce est faite aux familles. À 7h13, enfin, on informe la presse. S'affiche alors en rouge sur le tableau des arrivées de l'aéroport de Pékin le message clignotant « Flight from Kuala Lumpur, arrival time 6 AM 30, status delayed », puis dans les instants qui suivent « cancelled », supprimé dans le langage aéronautique, peut-être même disparu. Les médias annoncent la suite.
Une ligne rouge et une case noire. Le vol MH370 n'est jamais arrivé à Pékin. Parti de Malaisie, l'appareil a disparu des radars 2 heures après son décollage. Les familles patientent, dans l'angoisse.
Je n'ai aucune information. Au début, ils ont juste dit qu'il était retardé. Et là, on me donne un document qui me demande d'attendre.
Le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, comme celui-ci, avait décollé hier de Kuala Lumpur, direction Pékin. Il reste pour l'instant introuvable. Les recherches se concentrent sur cette zone du golfe de Thaïlande, mobilisant les marines vietnamiennes et malaisiennes.
Il s'agit d'une zone à la frontière entre l'espace malaisien et le contrôle vietnamien.
Les familles ont été rassemblées dans un hôtel à Pékin. 239 personnes se trouvaient à bord, parmi lesquelles 154 Chinois et 4 Français. Insupportable attente.
Dans le grand hall de l'aéroport de Pékin, les familles et proches des victimes sont sous le choc. Peu d'informations filtrent depuis le centre de crise de Malaysia Airlines. On sait juste que l'avion est déclaré disparu, faute d'apparaître sur les radars et de ne répondre à aucune fréquence. Personne ne sait encore ni pourquoi, ni comment. Évidemment, quand un avion a décollé et qu'il est affiché « cancelled » sur l'aéroport d'arrivée, c'est mauvais signe, en tout cas épouvantablement anxiogène pour les familles et les proches qui attendent.
Mon fils a seulement 40 ans. Comment est-ce possible de le remplacer?
Laissez-la, laissez-la.
Pourtant, élément très surprenant et qui ne sera rendu public que bien plus tard, l'appareil déclaré disparu depuis près d'une heure reçoit encore à ce moment-là les fameux signaux log on request venant du motoriste pour avoir des informations sur les moteurs via satellite. Le vol MH ne répond pas mais confirme par un dernier signal de faible intensité enregistré à 8h19 et 37 secondes avoir reçu le message. Dans les heures qui suivent, les autorités vietnamiennes et malaisiennes lancent une première opération de recherche dans la mer du golfe de Thaïlande. À Kuala Lumpur, par la voix de son premier ministre, la Malaisie se refuse pour l'instant à tout commentaire, mais précise que les communications ont été perdues lorsque l'avion est passé dans l'espace aérien vietnamien. Pendant ce temps, sur zone, plusieurs navires militaires croisent et recherchent d'éventuels débris. Tandis que dans le ciel, les avions de reconnaissance vietnamiens qui quadrillent le secteur identifient, eux, un élément suspect. Des traînées de carburant parallèles sur plusieurs centaines de mètres. Des taches qui pourraient provenir de l'avion disparu. Le soir, l'envoyé spécial de France 2, Baptiste Favlos, fait le point sur les recherches.
D'énormes, d'impressionnants moyens de recherche ont été déployés dans cette mer de Chine du Sud par la plupart des pays limitrophes. Il fait nuit maintenant en Asie et donc les recherches aériennes, elles, ont été interrompues. En revanche, des navires philippins, malaisiens, vietnamiens et même chinois continuent de patrouiller dans la zone pour tenter de repérer d'éventuels débris. Mais le problème, c'est où patrouiller puisqu'on sait où l'avion a disparu, mais on ne sait pas où il s'est abîmé, s'il s'est abîmé. Et donc du coup, c'est forcément l'incompréhension ici à Pékin. Je me trouve juste devant l'hôtel Lido dans lequel sont regroupées les familles des victimes, des Chinois en grande majorité puisqu'il y avait 154 Chinois à bord de cet appareil et forcément il y a des scènes d'angoisse, des scènes d'attente, la plupart des yeux sont rivés sur les écrans de télévision qui diffusent les journaux de la télévision chinoise et qui apportent finalement les seules informations. Alors il y avait 14 nationalités au total dont des Français, vous l'avez dit, 4 Français, 3 membres d'une même famille, une femme de 52 ans, son fils de 17 ans, sa fille de 14 ans ainsi qu'une autre personne qui accompagnait la famille. Il s'agit d'une jeune fille de 18 ans qui avait la double nationalité française et chinoise. Ils étaient tous scolarisés au lycée français de Pékin. La maman elle-même était la vice-présidente de l'association des parents d'élèves et forcément c'est le choc au lycée français. Une aide, une assistance psychologique a été mise en place lors de la rentrée des classes qui aura lieu lundi ici à Pékin.
À bord de l'appareil, parmi les 239 victimes probables, figurent en effet les 4 Français, dont la femme et les 2 enfants de Guilin Vatrelot, dont vous entendrez le témoignage tout à l'heure. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to you.
Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was for sale? Now my
Sensible sur France Inter, aujourd'hui la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines en mars dernier. Le lendemain de la disparition, certains médias révèlent que l'appareil a probablement changé de cap pour se dérouter plein sud. Les autorités malaisiennes, qui dans cette histoire ne vont cesser de se contredire, soufflant ainsi le chaud et le froid sur l'enquête, démentent fermement. Selon certaines sources, l'avion aurait même pu voler plusieurs heures encore avant de s'écraser. Alors que le flou s'épaissit, le général Rozali Daoud, chef de l'armée de l'air malaisienne, confirme enfin que le périmètre de recherche est agrandi.
Nous avons regardé les informations enregistrées par le radar et nous nous sommes rendus compte qu'il existe une possibilité réelle que l'avion ait fait demi-tour. Faire demi-tour signifie dévier du chemin de vol et revenir en arrière. Donc, pour cette raison, la zone de recherche a été élargie au moment où je vous parle à la mer de Chine méridionale. Et nous avons déjà demandé à nos amis indonésiens de nous assister dans cette tâche.
Les recherches s'orientent vers l'océan Indien, la mer d'Andaman, mer de Chine méridionale. Elle mobilise d'importants moyens matériels et humains. Il faut dire que la zone à couvrir est énorme, près de 90 000 km², la superficie d'un pays comme le Portugal. Jeanne Assouli, reporter pour France 3, commente cet énorme dispositif déployé dans le golfe de Thaïlande.
Une véritable armada à la recherche du Boeing disparu. 40 navires, 22 avions et hélicoptères de toute la région sont à la recherche du vol MH370 sur une zone désormais élargie. En fin d'après-midi, l'aviation vietnamienne aurait repéré des débris au large de l'île de Toshu, où hier des traces d'hydrocarbures avaient été repérées. Le mystère plane toujours sur l'origine de la disparition de l'avion. A-t-il décroché pour s'abîmer en mer ? A-t-il explosé en vol ? Autant de questions pour les enquêteurs qui évoquent une possible désintégration en plein vol.
Au fur et à mesure, la zone de recherche s'agrandit, se déplace, un peu comme si l'on recherchait une aiguille dans une botte de foin. À ceci près que l'aiguille mesure 63 mètres. Alors, on le retrouvera, forcément. C'est ce que tout le monde pense à ce moment-là. Dès lors, la presse fait l'écho de plusieurs hypothèses qui amènent de nouvelles questions. D'abord, quand un avion disparaît, par réflexe, on explore la piste terroriste. Et dès le lendemain de la disparition de l'avion, les autorités malaisiennes ouvrent une enquête pour actes terroristes, précisément. Car il se trouve que deux passagers munis de faux passeports, l'un italien et l'autre autrichien, auraient embarqué en Thaïlande, puis à bord de l'appareil à Kuala Lumpur. L'italien, dont le passeport a été volé, témoigne d'ailleurs face aux caméras. Il n'était pas à bord.
J'ai demandé à mes amis pourquoi ils s'inquiétaient autant pour moi. Et on m'a dit « Regarde sur Internet !» Il parle d'un Italien disparu. J'ai dit, mais c'est impossible, je suis en Thaïlande.
Les États-Unis envoient sur place des agents du FBI. Après enquête, la piste terroriste vacille. Interpol révèle en effet que les deux individus présents à bord de l'appareil étaient des clandestins iraniens et qu'ils ne sont pas fichés ni chez eux ni dans les fichiers de la CIA. En tout cas, pas comme des individus recherchés ou dangereux. Rien d'autre ne sera rendu public sur cet aspect de l'affaire, si ce n'est que beaucoup commencent à s'interroger. Comment, dans un grand aéroport international, des passagers ont-ils pu embarquer à bord d'un avion avec des passeports déclarés volés ? Les autorités malaisiennes ont-elles failli à leurs devoirs de contrôle et de sécurité ? Ou bien cache-t-on délibérément la vérité sur l'identité de ces deux personnes ? Quelques jours plus tard, des experts de Boeing se rendent sur zone. Et on apprend après analyse que les nappes de carburant découvertes par l'avion vietnamien correspondent en fait à celles d'un pétrolier qui a dégazé pour ventiler ses cuves. Dans le même temps, Chinois et Américains mobilisent plusieurs satellites afin de passer la zone au peigne fin. Le mercredi 12 mars, 4 jours après la disparition, Pékin annonce avoir identifié des débris qui pourraient appartenir à l'avion disparu. Théorie démentie par la marine vietnamienne qui se rend sur place quelques heures plus tard, elle aussi. Alors que les recherches sont de nouveau au point mort, élément nouveau. Des enquêteurs américains déclarent dans le Wall Street Journal que l'avion aurait pu voler encore 4 heures et pourrait se trouver bien au-delà de la zone de recherche qui était déterminée. À Kuala Lumpur, comme on le fait depuis le début, on dément. Près d'une semaine vient de se dérouler depuis la disparition de l'avion, il n'y a toujours aucune piste probante. Du côté des familles, la colère s'ajoute à l'angoisse. Beaucoup sentent qu'on veut leur cacher la vérité. Mais quelle vérité ? Le 17 mars, la police malaisienne mène une perquisition au domicile de 2 pilotes. Chez le commandant, on découvre un simulateur de vol sur lequel, avec un Boeing 777, il se serait entraîné à atterrir sur des pistes très courtes. Dans la presse européenne et américaine pointe alors la piste d'un détournement islamiste car les pilotes étaient musulmans. Pour les proches du commandant, toute cette histoire ne tient pas à la route.
Je l'ai vu il y a moins d'une semaine avant le décollage. Je l'ai vu rapidement, mais il m'a semblé comme d'habitude. C'est un homme jovial qui aime les gens. Faire quoi que ce soit qui pourrait faire du mal à plus de 200 personnes et leur famille, non, ça ne lui ressemble pas.
Même perquisition menée chez son copilote, bah, rien de spécial. Il a bien quelques fautes de conduite à son dossier, mais rien de plus. Non, ces deux-là n'ont pas un profil de terroriste, encore moins de pilote kamikaze. Autre élément troublant, celui-là. Des familles et des proches des disparus signalent aux autorités chinoises qu'ils ont vu la tonalité lorsqu'ils appellent sur des téléphones. Ils l'ont entendu, cette tonalité. Ils ont appelé sur des téléphones de passagers de l'avion. Certains téléphones sont encore connectés sur les réseaux sociaux plusieurs heures après la disparition de l'appareil. Cet épisode a alimenté beaucoup de spéculations, notamment celle selon laquelle l'appareil se serait posé quelque part. Il n'en reste pas moins que, d'un point de vue technique, il est possible qu'un téléphone sonne toujours bien qu'il soit éteint. Une histoire de couverture de réseau un peu compliquée, pas forcément déterminante, mais qui a nourri la machine à fantasmes. En tout cas, l'épisode des téléphones portables qui continue de sonner a mis le feu aux poudres en Chine, où plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour protester devant l'ambassade de Malaisie à Pékin. Devant les journalistes, ils réclament la fin des mensonges.
Ils nous cachent tellement de choses. Et même s'il n'y a pas de preuve que l'avion se soit crashé, eux, ils nous disent que les recherches sont terminées et que personne n'a survécu. Il n'y a aucune preuve. Moi, je demande à voir ce qu'ils ont. Ils n'ont même pas de données, ni même fait d'analyse pour affirmer qu'il s'est crashé.
Enfin, il y a la question de la cargaison de l'appareil. Les bordereaux sont à moitié remplis. Et il semble qu'on ait chargé plusieurs caisses de piles au lithium dans les soutes du 777 avant son envol de Kuala Lumpur. Ces mêmes piles au lithium que l'on retrouve dans nos téléphones ou tablettes peuvent se révéler hautement instables si elles sont mal transportées. Exemple probant, celui de l'incendie d'un avion d'UPS en 2010 à Dubaï. Il avait provoqué la mort de l'équipage et la destruction de l'appareil. Une vraie question, celle de la cargaison. Nous y reviendrons.
France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines. Notre invité, c'est Marc Duguin, l'écrivain Marc Duguin, écrivain enquêteur. Pour le coup, il a enquêté, il continuera d'enquêter sur cette affaire. Nous le retrouverons dans quelques minutes. Près d'une dizaine de jours après la disparition du MH370, la société britannique Inmarsat, à l'aide du dernier signal de log on request reçu par l'appareil et d'une série de calculs algorithmiques, annonce que le Boeing aurait pu suivre une trajectoire en arc de cercle qui l'aurait amené soit plein nord, sur le continent asiatique, là où il y a des radars au sol, et on aurait pu ou dû le repérer, soit plein sud, en plein océan Indien, à proximité des côtes australiennes, là où justement il n'y a pas de radar. Choisissant la seconde option, la communauté internationale va déployer d'importants moyens sur zone. Un satellite français ira même jusqu'à annoncer avoir retrouvé d'étranges débris. Cette piste, aussi coûteuse que chronophage, se révélera vite être une impasse et amènera vite une nouvelle polémique. A-t-on voulu, avec la piste australienne, égarer un peu plus l'enquête ? Depuis le 9 mars, date de la disparition officielle du vol MH370 d'un Malaysia Airlines, aucun élément de l'enquête n'a officiellement débouché sur quelque chose de probant. Pour les familles des victimes, toutes les pistes n'ont cessé de s'écarter de la vérité. Mais quelle vérité, là encore ? Pour tenter de faire avancer les choses, une plainte a été déposée en France et une aux États-Unis pour que la justice soit saisie et que de nouveaux moyens soient mis à disposition pour faire la lumière sur cet événement. Car pour la première fois dans l'histoire du transport aérien, 9 mois après une catastrophe aérienne, l'appareil n'est toujours pas retrouvé. Ce qui pour les proches des victimes est forcément une double peine.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you we'll let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me, don't ask for so much. And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, why not ask for more? like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free.
Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines. Notre invité, Marc Duguin. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'auteur d'une passionnante enquête, d'ailleurs que tout le monde peut lire dans le Paris Match de cette semaine, et en partenariat avec France Inter. Je rappelle que vous êtes écrivain, mais je l'ai dit au départ, donc on va aller directement dans le sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette enquête, au-delà du fait que vous avez aussi dirigé une compagnie aérienne, vous connaissez très bien l'aviation, mais j'imagine que ce n'est pas une raison suffisante.
Ce n'est pas une raison suffisante, mais c'est une raison au départ. Parce que comme j'ai été dirigeant responsable d'une compagnie, je sais ce que c'est que la menace d'un accident sur une compagnie et la tragédie que ça représente. Bien que je n'en ai pas eu dans ma propre compagnie, mais j'ai pu voir tous les accidents pendant la période dans laquelle j'étais en fonction. Et évidemment, j'ai été interpellé par cette disparition qui me paraissait invraisemblable. C'est-à-dire qu'un avion de cette taille, vous l'avez dit, 63 mètres, le meilleur avion du monde, que moi je considère personnellement comme le meilleur avion du monde, qui disparaît totalement des écrans, on ne retrouve rien. Enfin, a priori, on ne retrouve rien. Et donc ça me paraissait tellement, tellement énorme. Et puis Paris Match m'a proposé cette enquête avec les moyens qui sont les leurs, qui sont assez rares aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment la possibilité d'aller sur place, de rencontrer les bonnes personnes. Donc moi, je suis parti. J'ai commencé directement par... Pour moi, il y a deux choses dans l'accident. Est-ce qu'il y a des débris ? Est-ce qu'il y a des témoins ? Alors, des témoins, c'est souvent assez rare. Et là, il y avait une piste qui est intéressante, qui est celle des Maldives, où il y a entre 5 et 10 personnes, selon les informations qui ont été divulguées, qui auraient vu passer un avion énorme à basse altitude, à une heure qui correspond tout à fait à l'heure à laquelle il aurait pu passer, et qui fait un virage au-dessus d'une île qui s'appelle Oudaouvadou et qui ensuite prend la direction de Diego Garcia, qui est la base militaire américaine en plein milieu de l'océan Indien. Base dont il faut juste dire deux mots, c'est que c'est une base absolument extraordinaire en termes de renseignement. C'est-à-dire que c'est là que se fait le renseignement sur les satellites, c'est là que se fait le renseignement sur les câbles sous-marins. Donc c'est une base opérationnelle très très forte, qui est vraiment une base arrière de la guerre dans le golfe Persique.
Et il ne faut pas s'en approcher.
Alors il ne faut pas s'en approcher, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, quelque chose qui m'étonne, parce qu'il y a une déclaration de Keith Alexander, qui est le patron de la NSA, donc la grande agence de renseignement américaine, qui dit aujourd'hui, parce qu'il est un peu vantard ce monsieur, il dit aujourd'hui, il n'y a pas un objet de la taille et du poids d'un être humain qui peut échapper à notre contrôle sur la Terre. Moi, je prends acte. Alors, comment se fait-il qu'un objet de 63 mètres, dans une zone aussi sensible, puisqu'on est tout à fait dans le périmètre de cette base, ait pu échapper à la surveillance américaine? Et évidemment, on n'a pas de réponse.
Alors, donc, oui, pardon.
Pardon. Donc oui, j'ai été voir. Donc de fait, je suis parti aux Maldives dans cette... Parce que les Maldives, ce n'est pas que des centres de vacances, enfin des îles paradisiaques, c'est aussi des îles où vivent des gens, où il n'y a pas d'étrangers. Et c'est dans cette île que j'ai rencontré ces témoins qui me sont apparus extrêmement sincères. Ce n'est pas des témoins qu'on paye, ces gens qui n'ont aucun intérêt, qui m'ont simplement dit on n'a jamais vu un avion de cette taille passer au-dessus de notre île. Et l'armée des Maldives, puisqu'il y a une armée aux Maldives, a reconnu qu'il n'y avait absolument aucune raison, compte tenu du trafic aérien au-dessus des Maldives, qu'il y ait un avion qui passe là, à ce moment-là, ce jour-là.
Alors évidemment, ce que vous nous dites nous fait penser que cet avion se serait approché de cet endroit. On ne peut pas s'approcher. Que peut-être il aurait été abattu. C'est ça. Est-ce que derrière, il y a cette hypothèse-là ?
Mais bien sûr qu'il y a cette hypothèse-là. En même temps, moi, je ne suis pas non plus pour exacerber des théories complotistes. Je dis que c'est une possibilité. C'est-à-dire que s'il y a eu un détournement terroriste et que l'idée était d'écraser l'avion sur Diego Garcia, sachant qu'on a vu cet avion passer au-dessus des Maldives, faire un virage qui correspond exactement à l'angle qui permet d'aller vers Diego Garcia, qui passe en très basse altitude pour échapper au radar. Là, on commence à se dire, c'est une possibilité. Maintenant, je n'ai pas plus de preuves que ça.
Bien sûr.
En revanche, il y a une deuxième chose qui m'a intrigué, c'est qu'on a trouvé quelque chose qui ressemblait à un extincteur de Boeing sur une plage plus au nord, à Barra, une île qui n'est pas très accessible. Et donc, évidemment, j'ai mené mon enquête là-bas. J'ai vu les photos. J'ai transmis les photos à la fois aux États-Unis et à un centre de maintenance que je connais bien et qui m'ont dit ça ressemble quand même très, très fortement à un extincteur de Boeing 777. Et là-dessus, alors les autorités malaisiennes nient complètement. Ils disent, mais il n'y a jamais eu de témoin aux Maldives. Il n'y a jamais eu d'extincteur aux Maldives. Alors que à force d'avoir insisté, il y a un militaire des Maldives qui nous a dit, enfin qui m'a dit, c'est bien un extincteur d'avion.
Bon, alors, il y a quand même, là, c'est quand même quelque chose, hein, c'est quand même un indice important. Il y a une omerta, il y a une loi du silence organisée qui nous dit circuler, il n'y a rien à voir, parce que peut-être qu'il y a une vérité indicible. On va y revenir. Moi, j'aimerais qu'on écoute maintenant le témoignage de Guylain Vatrelot, donc le père de cette famille française, victime de ce drame, parce que c'est d'abord 239 personnes, hein,
qui
disparaissent.
Oui, 239 bon. Personnes.
Lui, il a perdu sa femme et ses deux enfants. Alors, on imagine évidemment le drame humain. Et il dit d'ailleurs qu'il lui reste deux raisons de continuer à vivre. Le fils, il y a un fils, et la vérité concernant cette tragédie. Oui, la vérité, et vous allez l'entendre, il ne va pas baisser les bras. Et il le dit à notre reporter, Anel Verzo.
Vous continuez à travailler ?
Je continue à travailler. J'ai deux activités, j'ai mon boulot et j'ai cette enquête, parce que je ne crois absolument pas à ce qu'on nous dit depuis le départ. Ce sont les Américains, le FBI, qui va chercher le simulateur de vol du pilote au bout d'une semaine, en nous disant qu'il y a des choses effacées sur ce simulateur, mais qui ne nous dit jamais rien de plus derrière. Ce sont les Anglais qui disent où est l'avion, avec Inmarsat. Et ce sont les Australiens qui cherchent. Donc dans le monde du renseignement, quand vous dites ça à des gens du renseignement, en général, ils vous disent assez rapidement « j'ai compris ». Et donc c'est ce trio infernal qui, aujourd'hui, mène la danse. Pourquoi ? J'aimerais savoir.
Et votre hypothèse, c'est quoi ?
J'ai pas d'hypothèse parce que j'ai des doutes sur tout ce qu'on nous donne. Donc en fait, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans cette histoire. Dès les premiers jours, on a quelque chose à cacher. Je ne sais même pas si finalement les radars malaisiens qui sont de l'autre côté sont vrais. Je n'ai pas de preuves, on nous a jamais apporté aucune preuve dans cette histoire, en tout cas nous, familles.
Guylain, vous dites donc, je travaille sur cette enquête. Avec les autres familles, vous avez demandé aussi peut-être à des journalistes ou à des enquêteurs d'aller sur place, de mener l'enquête, ou vous-même, vous menez cette enquête personnellement ?
Très rapidement, effectivement, on a monté des actions avec les familles. Mais la plus grosse nationalité dans cet avion, c'est 150 Chinois. Rapidement, les 150 Chinois ont été menacés. Certains ont été emmenés au poste pendant 24 heures, quand ils se réunissaient, quand ils faisaient des actions envers la Malaysia Airlines, envers le gouvernement malaisien. Donc ils se sont rassemblés un jour devant l'ambassade de Malaisie. Ils ont été embarqués par la police. Je les ai rencontrés la semaine dernière pour la première fois. Et on m'a expliqué qu'on leur avait demandé de ne pas contacter les autres familles des autres pays.
Qui leur a fait cette demande ?
Le gouvernement chinois. De ne pas contacter les médias des autres pays. Donc aujourd'hui, ils sont menacés. Donc ils n'ont pas le droit d'agir. Il reste très peu de gens dans cet avion avec qui on peut travailler. Donc il y a une Américaine, il y a deux Indiens, il y a une Australienne, et voilà, c'est tout.
Mais le gouvernement français dans cette histoire, vous aviez écrit à François Hollande.
C'est ce qui me fait peut-être le plus mal quelque part. Je me sens totalement abandonné par mon pays. D'abord, la première chose, il n'y a jamais eu qui que ce soit du gouvernement qui se soit exprimé sur cette affaire-là. Alors qu'on le voit tous les jours, hein. On le voit tous les jours, dès qu'il y a un Français disparu, dès qu'il y a un otage quelque part, dès qu'on s'exprime. Sur cette affaire-là, depuis le premier jour, personne ne s'est exprimé. J'ai écrit au président en lui demandant pourquoi, et j'ai trouvé un peu irrespectueux qu'il ne me réponde pas personnellement, que c'est son chef de cabinet qui me réponde, en me disant « on ne sait rien ».
Vous allez retourner là-bas ?
Je ne voulais pas y retourner. J'y suis allé pour la première fois la semaine dernière. Je suis retourné dans cet aéroport et ça a été très dur. C'était le dernier moment où j'avais des nouvelles de ma famille, notamment ma fille qui, dans cet aéroport, envoyait un chat à sa meilleure copine en disant « Je suis content, je vais retrouver mon papa ». C'est le dernier mot de ma fille. Voilà, je suis retourné dans cet aéroport où elle a dit ça. Mais j'étais content de voir les familles, de pouvoir discuter avec eux. J'ai aussi vu des avocats malaisiens qui avaient lancé une action contre le gouvernement malaisien et contre Air Malaysia pour négligence.
Ça avance, l'enquête que vous menez avance ?
Oui et non, ça avance très doucement. Parce que on se bat contre plus fort que nous. Mais mon espoir, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont des petites pièces du puzzle. Il y a des tas de personnes qui ont parlé ou qui n'ont pas encore parlé, qui savent des tas de choses. Mais ça va prendre du temps.
Beaucoup de courage, hein ?
Non, c'est pas du courage. C'est l'évidence même, quand ça vous arrive. Ben voilà, quoi. Pourquoi ils ont disparu ? J'ai besoin de répondre à cette question.
Voilà, j'ai besoin de réponse à cette question. Et comment on le comprend, cet homme, hein, que vous avez rencontré, Marc ?
Oui, oui, bien sûr, je l'ai rencontré à deux reprises. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux, d'extrêmement digne. Et il a raison, il n'a reçu aucune réponse du gouvernement français qui s'agite, à raison d'ailleurs, hein, dès qu'il y a un otage quelque part. Et là, il y a trois personnes qui ont disparu, mais qui ne sont pas mortes. En tout cas, on n'a pas de preuves. Et là, le gouvernement français est exactement dans la ligne des autres gouvernements, c'est-à-dire le silence, le mur du silence. Et le problème, c'est que quand on se heurte à un mur du silence comme ça, forcément, l'idée que ce n'est pas clair commence à germer.
Forcément.
Et on voit bien, pour ceux qui ont un peu de relations avec la communauté du renseignement, on voit bien que les informations qu'on a, c'est... Moi, j'ai été personnellement, d'ailleurs, je dirais pas menacé, mais averti.
Par qui ?
Par des services étrangers, me disant, service anglais, me disant, votre intérêt, c'est pas de mettre votre nez là-dedans, de toute façon, vous n'arriverez à rien, et laissez faire le temps, et avec le temps, les choses finiront par s'arranger. Donc... Ça fonctionne pas, ça. On peut pas accepter ça dans une démocratie.
Bien sûr. Les Anglais, justement. Quel rôle ils jouent, Ivar Sat ? Les Anglais sont très présents ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, à cause de ce long on request, qui est donc ce contact entre l'avion et les moteurs, le motoriste
ouais.
C'est-à-dire Rolls-Royce, à partir de là, c'est-à-dire que le motoriste envoie un signal, l'avion accuse réception, mais répond pas. Donc, à partir de là, ils sont... Donc, Inmarsat, cette société anglaise, qui a ce satellite géostationnaire qui a récupéré les données, a dressé ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire un arc, qui est l'arc sur lequel on devrait trouver l'avion. Et c'est à partir de là qu'on a orienté les recherches, à mon avis, n'importe où. Il se trouve que Inmarsat est une société de satellites qui est, on peut le dire, je crois, assez directement, assez liée à la CIA et au monde du renseignement. Donc tout ça semble très, très épais.
Marluyin, on le redit, un avion, c'est un objet de 63 mètres. C'est presque un terrain de football. C'est énorme.
Colossal.
Colossal. On va pas... Admettons qu'on veuille cacher les éléments matériels de preuve, qu'on veuille cacher les débris. L'avion s'est abîmé. On ne va pas pouvoir les cacher indéfiniment, éternellement. Il y a même peut-être des privés qui vont tomber dessus, qui vont voir ça. Enfin, c'est une histoire complètement dingue.
Sauf si pendant qu'on lance les recherches au mauvais endroit, on ramasse les débris ailleurs et qu'on les stocke quelque part. Ça, c'est une hypothèse aussi, qui vaut que ce qu'elle vaut aujourd'hui. Mais peut-être qu'on saura avec le temps. De toute façon, c'est une enquête qui sera très longue. Vous savez, moi, j'ai travaillé sur le cours, j'ai travaillé sur l'affaire Kennedy. L'affaire Kennedy aujourd'hui...
Avec ce qui se passe avec Cuba, là, oui, peut-être que ça va ouvrir les vannes, non ?
Mais encore maintenant, il y a un véritable déni de la réalité et de la vérité. Donc sur cette affaire, je pense que ça sera très long, très difficile, et il faut être assez opiniâtre pour y arriver.
Cette histoire des deux passagers, des deux passeports, des faux passeports, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ce que j'en pense, c'est que quand on vous dit ces gens-là n'étaient pas fichés au grand terrorisme international, C'est évidemment que quand il s'agit d'agents de services secrets, ils ne sont pas fichés.
Ça paraît évident, oui.
Et ça paraît évident. Donc, qui sont ces deux personnes? Et puis, il y a d'autres problèmes qui surgissent. C'est-à-dire qu'il y a le détournement physique. Ça, c'est une chose. On est habitué. C'est le mode habituel. Mais il y a le détournement informatique.
À distance?
À distance. Aujourd'hui, on est capable de détourner un avion à distance. De l'intérieur de l'avion, bien sûr. Et à distance, pour reprendre le contrôle d'un avion qui aurait été détourné par des terroristes. Ça a été la première chose qu'a dit Bush après le 11 septembre. Il faut absolument qu'on soit capable de prendre le contrôle d'un avion si des terroristes s'en sont emparés. Et résultat, aujourd'hui, on est tout à fait capable, technologiquement, Boeing a même déposé des brevets dans ce sens-là, on est tout à fait capable de prendre le contrôle à distance d'un avion. Et donc, si il y avait eu une attaque terroriste, je pense qu'on aurait été probablement capable aussi de prendre le contrôle de cet avion. Ou alors il a échappé au contrôle des Américains qui ont voulu prendre le contrôle et ça s'est mal passé. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement d'hypothèses. Et il n'y a qu'une seule chose pour moi qui est certaine, c'est qu'on ne sait pas, mais quelqu'un sait. Et ça, j'en ai une certitude absolue.
Alors, on va laisser la parole une seconde fois à Guylain Vatrelot. Simplement, si l'avion était vide, on n'en parlerait pas. Évidemment, cette affaire, c'est un drame. Hein, c'est 239 personnes disparues. C'est ça qu'il faut répéter. Et pour ce qui concerne Guylain Vatrelot, qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre sa femme et ses enfants? On va lui laisser la parole une dernière fois dans cette émission.
On est avec Guylain Vatrelot à Paris, un peu plus de 9 mois après l'accident.
Oui, absolument. L'accident est arrivé le 8 mars. Je dis accident, mais c'est peut-être pas un accident d'ailleurs. Je préfère dire l'incident. Pour moi, ce n'est pas un accident.
Et on parle de la disparition de votre femme et de deux de vos enfants.
Oui. Ma femme et deux de mes enfants, donc Ambre et Adrien, qui avaient 14 et 17 ans, qui revenaient de vacances passées en Malaisie tous les trois. Et moi, je devais les rejoindre suite à cette semaine de vacances qu'ils avaient passée là-bas. Moi, je travaillais déjà à Paris. Nous devions tous rentrer à Paris en juin. Et j'allais les rejoindre à Pékin, où nous habitions à l'époque, pour que je passe leur deuxième semaine de vacances avec eux. Et j'ai donc été le dernier à prendre la nouvelle, parce que j'étais dans l'avion entre Paris et Pékin au moment où l'incident est arrivé. Et donc j'étais accueilli à la descente de l'avion par l'ambassade de France qui m'a expliqué que tout était terminé. C'est le consul de l'ambassade de France qui m'a accueilli à ma descente d'avion et je le connaissais et qui m'a dit « Guylain, il est arrivé un malheur à ta famille, leur avion est disparu, on ne sait pas où il est, mais globalement il m'a dit « il n'y a pas d'espoir ».
Et après, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre le moment où on vous a appris la disparition de l'avion et les premières recherches.
D'abord, je suis resté une semaine à Pékin tout seul. Enfin, mon fils et ma sœur et ma belle-sœur sont venus me rejoindre au bout de 48 heures. Donc, il y a eu plusieurs moments. Il y a eu la première semaine où cette semaine a été entre le désespoir et un peu d'espoir, parce que finalement l'avion avait disparu, mais on ne savait pas où il était. On était branchés sur CNN et BBC, qui passaient 24 heures sur 24 des émissions là-dessus, qui étaient sur place, et on nous disait l'avion a peut-être été détourné, l'avion a atterri quelque part, donc on a été dans cette semaine-là sans arrêt entre l'espoir et le désespoir. Il y avait des recherches en mer, mais on ne donnait pas de réponse. Et c'est un peu plus tard qu'on a commencé à nous dire que l'avion était parti dans le sud de l'océan Indien et que vraisemblablement il était tombé dans l'eau, jusqu'à ce fameux SMS. On nous prévient par SMS le 24 mars pour nous dire tout est fini, l'avion est tombé.
Qui vous l'annonce? Le gouvernement français?
Non, Air Malaysia, Malaysian Airlines, m'envoie un SMS en me disant... Regardez la télé, le premier ministre malaisien, et on nous dit l'avion est tombé dans l'océan Indien, tous les passagers sont vraisemblablement tous morts. Voilà comment on me l'annonce. Ouais.
Vous vivez en France maintenant?
Maintenant je vis en France, oui.
Avec votre fils?
Ben, mon fils est étudiant, oui, donc il est sur Paris, moi aussi, enfin, je le vois le week-end, oui. Lui, il a la vie devant lui, donc il faut qu'il se reconstruise très vite. Il est dans les plus belles années de sa vie. Il ne faut pas que ça tourne en boucle, comme pour moi, donc il faut que je lui montre que je mène ce combat, et il faut que je le protège de ce combat aussi, c'est pas à lui de mener le combat. Lui, il a autre chose à faire. Pour lui, c'est vraiment trop douloureux d'aller là-bas.
Ce qui se passe aussi, c'est qu'il s'agit d'une disparition. Il y a toujours l'incertitude dans la disparition. On doit se poser la question, mais peut-être qu'ils peuvent revenir.
Ben, il y a toujours l'incertitude et il y a toujours l'espoir qui a été retrouvé. Il n'y a pas un corps qui a été retrouvé. Donc on se dit, il y a toujours l'espoir. Et puis de toute façon, il y a des gens, toutes les semaines, qui nous envoient des messages d'espoir. Ils sont prisonniers au Pakistan, ils sont prisonniers en Afghanistan. Ils sont prisonniers à Diego Garcia, sur la base américaine. Les familles prient encore, on pense encore qu'ils peuvent revenir, que c'est encore possible, mais bien sûr. Parce que de toute façon, on n'a aucune preuve du contraire. On ne peut pas se reconstruire non plus. C'est pas possible. On ne peut pas faire un enterrement. Même un truc tout bête, je suis allé voir un cimetière un jour en me disant « je vais faire quand même quelque chose, parce que bah, faut bien qu'il soit quelque part ». Ils peuvent pas être nulle part. Et un truc tout bête, le cimetière me dit, mais on peut même pas mettre une plaque avec... c'est pas possible. On peut mettre éventuellement en mémoire de ou un truc, mais on peut pas mettre une plaque, c'est pas possible. Enfin, je n'ai toujours pas de certificat de décès, donc administrativement, ils sont toujours vivants aussi. Personne ne veut ne me donner de certificat de décès. Donc de toute façon, administrativement, ils sont toujours vivants. Donc vous imaginez les problèmes de tous les jours. Donc voilà. Voilà. Voilà.
Guilin Vatrelo, confidence auprès d'Anaël Verzo, un magnifique document de dignité et de force. Marc Dugain, on a éludé, enfin pas éludé, mais on n'a pas abordé la thèse de l'accident. Je reviens sur les piles au lithium. On sait que c'est inflammable, c'est mal conditionné, mal transporté. L'avion aurait-il pris feu à cause des piles au lithium?
Oui, il aurait pu prendre feu. Il aurait pu y avoir une asphyxie à la fois des passagers et du pilote. Et l'avion, étant sur pilote automatique, aurait continué. Ce qui, à mon avis, gêne cette thèse, c'est qu'on ait cette omerta autour. Et c'est là où ils se prennent à leur propre jeu, ceux qui ne veulent pas parler. C'est que on sent qu'il y a une telle opacité que si c'était un accident, vous l'avez dit, l'avion du PS...
À Dubaï,
c'est expliqué. Effectivement, il y a des piles au lithium, c'est plus réglementaire, ils ont fait une erreur, mais là, je pense que ça va bien, bien au-delà de ça.
Marc Dugain, il nous reste à peine une minute. Vous allez continuer l'enquête?
Oui, je vais la continuer, d'abord par solidarité et sympathie pour Guilin Vatrelo, qui est extrêmement isolé, qui me dit souvent « je crois plus à rien ni à personne ». Parce que quand il y a un accident comme ça, tout le monde parle. Tout le monde sait, tout le monde a quelque chose à dire. Et c'est difficile de faire la synthèse, c'est difficile d'avancer. Et puis à titre personnel, avec Paris Match, on va continuer cette enquête. Parce qu'ils ont eu le courage d'aller très loin sur cette enquête qui n'intéressait plus grand monde dans les médias, il faut le dire. Et donc, avec eux, je vais continuer jusqu'à ce que, j'espère, on sache la vérité.
C'est un droit de suite là, que vous exercez, ça s'appelle un droit de suite. Hein.
Oui, c'est une possibilité de suite.
Oui, en tout cas, une possibilité de suite. Il me reste à vous remercier Marc Dugain, remercier également Paris Match pour cette association avec nous, pour cette enquête. Le dernier roman que vous avez publié s'appelait L'Emprise. Ça s'appelait pas L'Emprise 1, mais il aurait pu, parce que je crois qu'il y a L'Emprise 2 qui se prépare pour le mois de mars, c'est ça?
Oui, pour le mois de mars.
On verra, au mois de mars.
On verra.
Merci Marc Dugain.
Merci beaucoup.
C'était Affaires Sensibles, la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines. C'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, ce sera au tour de Pierre Goldman.